Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, heureux de vous retrouver sur VOA Afrique pour le monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité dans la capitale américaine. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce vendredi 9 janvier 2015. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Les points forts de l'actualité ce matin, la traque des tueurs de Charlie Hebdo se poursuit. Barack Obama en visite à l'ambassade de France. Au Nigeria, nouvelle attaque de Boko Haram. Au Mali, le négociateur avec les rebelles nommé Premier ministre.
Moussa Mara ne sera donc resté que 9 mois à la primature. Il avait lui-même succédé à Omar Tatamli.
Dans la partie magazine, gros plan sur un climat de peur qui s'est installé à Lubumbashi en RDC.
C'était à 6h moins le quart. Nous avons vu une jupe pleine de JR, bien armée jusqu'aux dents. Lance-cloquettes, MAG sont descendus sur notre territoire.
Également à la une, l'Ivoirien Yaya Touré, élu meilleur joueur africain de l'année. D'ailleurs, ne manquez pas la page sportive tout à l'heure, tout comme le billet de l'économie et la plage musicale.
Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a entièrement détruit 16 villes et villages des rives du lac Tchad, dans le nord-est du pays, au cours d'un nouveau raid. Claire Morin-Gibourg.
Ce nouveau raid de Boko Haram a fait de très nombreuses victimes, selon les personnes interrogées par l'AFP, mais aucun bilan n'a pu être confirmé dans l'immédiat de façon indépendante, même si certaines sources évoquent près de 2000 morts. Lors de l'attaque qui a eu lieu mercredi, les islamistes ont entièrement brûlé 16 villes et villages, dont Baga, ce grand carrefour commercial qui abrite une base militaire importante. Aboubakar Gamandi, chef du syndicat des pêcheurs de l'État de Borno, où s'est produit l'attaque, a confirmé à l'AFP ce nouveau raid, précisant que de nombreux habitants ayant fui les violences se sont retrouvés coincés sans vivre sur une île du lac Tchad. Le bilan définitif des victimes risque d'être difficile à établir, des milliers d'habitants ayant pris la fuite vers le Tchad voisin. On dénombre déjà plus de 20 000 déplacés provenant de Baga et de ses environs dans un camp à Maïdougouri.
Nouveau rebondissement dans la crise malienne, alors que les groupes armés sévissent toujours dans le nord du pays, le Premier ministre Moussa Mara a remis hier sa démission. Modibo Keïta lui a aussitôt succédé. Nicolas Pineau.
Oui, les deux décrets ont été lus à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. Moussa Mara ne sera donc resté que 9 mois à la primature. Il avait lui-même succédé à Omar Tatamli. Moussa Mara, 39 ans, leader du parti Yelema, le changement en Bambara, était sur la sellette depuis sa visite à Kidal en mai dernier. Cette visite dans le bastion Touareg avait provoqué des affrontements et l'armée malienne avait dû céder de nombreuses localités du nord du pays. Le troisième Premier ministre de l'ère Ibeka s'appelle donc Modibo Keïta. Il était jusqu'alors le représentant malien aux négociations avec les groupes rebelles à Alger, négociations qui n'ont pas encore permis de parvenir à un accord de paix.
Autre démission au Burkina Faso, cette fois-ci, il s'agit du ministre des Transports et des Infrastructures. Depuis plusieurs semaines, Moumouni Diegimde était contesté par des agents de son ministère, soutenu par la société civile burkinabé, dont le balai citoyen, fer de lance de la contestation anti-Compaoré. Au micro de Bagassi Koura, le directeur du quotidien Aujourd'hui au Faso, Dieudonné Zungrana.
En fait, le ministre des Infrastructures, Moumouni Diegimde, dès sa nomination, avait été décriée et par les syndicats de son département et par la société civile. Il y avait un flou d'abord sur son nom. Donc, les gens de son département ont voulu qu'il clarifie ça. Ça, c'est un des points. Ensuite, il est reproché, en fait, d'avoir fait la prison aux États-Unis, justement, pour des choses pas assez claires. Donc, autant dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'on reprochait au ministre qu'il devait clarifier. Il a fait effectivement une conférence de presse au cours de laquelle il n'a pas convaincu et les journalistes et l'opinion publique. Conséquence, les mouvements sur sa récusation ont repris de plus belle et finalement, je crois que ce 8 janvier, vers 18h, il est allé présenter sa démission au Premier ministre.
La tentative de coup d'État du 30 décembre en Gambie, Papa Fall, l'un des deux Américains inculpés pour complot, va rester derrière les barreaux en attendant la suite de l'affaire. C'est du moins la décision d'un juge du Minnesota qui a estimé hier que l'homme de 46 ans risque de s'enfuir. Fall et son co-accusé de 57 ans, Tchernu Ndiaye, ont été placés en détention pour leur participation présumée dans l'attaque du palais présidentiel à Banjul. Selon les procureurs, ils avaient acquis des armes et les avaient envoyés en Gambie pour les utiliser dans leur tentative de coup d'État contre le président Yahya Jammeh.
Un vaccin contre la méningite A pour les nourrissons en Afrique subsaharienne. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé ce vaccin pour un prix abordable. Les enfants et les jeunes adultes de 1 à 29 ans reçoivent déjà le Menafrivac. Désormais, ce sont les petits de moins d'un an qui vont bénéficier de la vaccination.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La traque des tueurs présumés de Charlie Hebdo se poursuivait dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord de la France. La chasse à l'homme se concentrait sur deux frères, dont l'un a déjà été condamné pour avoir tenté de rejoindre l'Irak afin de s'y battre aux côtés des combattants islamistes. Henri Francisque.
À Washington, des responsables américains ont révélé que les deux suspects, les frères Sherif et Saïd Kouachi, âgés de 32 et 34 ans, se trouvait depuis des années sur la liste noire américaine du terrorisme et que Saïd Kouachi s'était entraîné au maniement des armes au Yémen. Une dizaine de personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur cet attentat qui a fait mercredi 12 morts, dont 8 journalistes et 2 policiers. Une attaque sans précédent en France est qualifiée de terroriste par François Hollande. Une fusillade s'est en outre déroulée jeudi matin à Montrouge, au sud de Paris, tuant une jeune policière et blessant un agent de la voirie, sans que l'on sache s'il existe un lien avec la tuerie de Charlie Hebdo. Le premier ministre Manuel Valls a déclaré que des milliers de policiers, gendarmes et enquêteurs étaient mobilisés pour retrouver les deux principaux suspects. L'un des individus en garde à vue est un jeune homme de 18 ans, Hamid Mourad, qui s'est rendu à la police mercredi soir. Sherif Kouachi a été condamné en 2008 pour avoir fait partie d'une filière visant à envoyer des djihadistes dans les rangs de la branche irakienne d'Al-Qaïda. Les deux hommes figurent dans les bases de données américaines des personnes suspectées de terrorisme, y compris sur la célèbre no-fly list, qui interdit à ceux qui y figurent de prendre des vols au départ ou à destination des États-Unis. Aux États-Unis, justement, dans un geste remarqué, le président Barack Obama s'est rendu hier à l'ambassade de France à Washington pour rendre hommage aux victimes de l'attentat en signant le livre de condoléances. Au nom de tous les Américains, je fais part aux Français de notre solidarité après cette terrible attaque terroriste à Paris, a écrit M. Obama. Nous avançons ensemble, convaincus que la terreur ne vaincra pas la liberté et les idéaux qui sont les nôtres, les idéaux qui illuminent le monde. Vive la France, a conclu le locataire de la Maison-Blanche.
Le procureur général américain Eric Holder se rendra à Paris dimanche pour prendre part à une réunion sur le terrorisme et l'extrémisme à l'invitation du ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. Et puis sachez que le prochain numéro de Charlie Hebdo sera en kiosque mercredi prochain et sera tiré à 1 million d'exemplaires.
L'ancien patron d'une agence d'adoption américaine accusé d'avoir fabriqué de fausses adoptions en lien avec l'Éthiopie dans le but d'escroquer le gouvernement américain a plaidé coupable en cour fédérale hier. James Harding, qui travaillait pour l'International Adoption Guides, a admis avoir dupé le département d'État à travers de faux papiers d'adoption pour des enfants éthiopiens présentés comme orphelins. Il a également admis avoir payé des pots de vin à 2 responsables éthiopiens.
Le président sri-lankais Mahinda Rajapaksa a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle de jeudi, remporté par le candidat de l'opposition, Motripala Srinessa, ont annoncé les services du chef de l'État. D'après des résultats préliminaires portant sur 11 des 160 divisions électorales, Motripala Srinessa, un ancien ministre récemment passé à l'opposition, recueillait 56,5% des voix contre 42% à Mahinda Rajapaksa. Comme chaque matin, la Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.
C'est un nouveau signe de la relance économique aux États-Unis. Selon le département du travail, 294 000 personnes se sont inscrites au chômage lors de la semaine close le 3 janvier 2015, soit 4 000 de moins qu'à l'issue de la semaine précédente. Le président Barack Obama est particulièrement satisfait de la bonne performance économique du pays.
One of my New Year's resolutions.
L'une de mes résolutions pour la nouvelle année est de m'assurer que plus d'Américains à Wayne, plus d'Américains dans le Michigan et plus d'Américains dans tout ce grand pays, que tout le monde a le sentiment qu'on repart.
Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo s'est félicité hier des performances économiques réalisées par la RDC sans le soutien du Fonds monétaire international.
En janvier 2014, M. Matata avait soutenu que la RDC pouvait passer un peu de temps sans l'assistance du FMI, comparant celui-ci à un médecin de la maladie économique à qui l'on recourt en cas de maladie. Autrement dit, le Congo se porte plutôt bien. Kinshasa prévoit un taux de croissance de 10,4% en 2015.
Et le Vatican a alloué 3 millions d'euros à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée.
Les fonds seront mis à la disposition de structures soutenues par l'Église pour l'acquisition de fournitures sanitaires de première nécessité, le transport des malades et la rénovation des structures. Une partie des fonds seront destinés aux résidents des zones soumises à quarantaine et à aider les familles frappées ainsi que les mineurs orphelins à la suite de l'épidémie.
Sans plus tarder, la page sportive. Et de 4 pour l'Ivoirien Yaya Touré. Et oui, le milieu terrain de 31 ans de Manchester City a été sacré hier à Lagos, joueur africain de l'année, le premier à décrocher ce titre pour la 4e année consécutive, aux dépens du Gabonais du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et au gardien de but nigérian de Lille, Vincent Enyiama. Le Camerounais Samuel Eto'o a lui aussi remporté ce trophée 4 fois, mais pas 4 fois d'affilée, comme Yaya Touré. D'autres nouvelles maintenant avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Jacques.
Préparation de la CAN 2015, le Ghana a fait match nul 1-1 face au club néerlandais de SC Cambuur.
Oui, les Black Stars du Ghana menaient au score après un but de Daniel De Ridder en première période ont égalisé par André Ayou à la 60e minute. Le Ghana, pour son premier match de préparation, avait largement dominé 3-0 le club portugais d'Olhanense mercredi à Faro.
Adebayor sur le marché.
Oui, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2015 avec Tottenham, l'attaquant international togolais Emmanuel Adebayor, âgé de 30 ans, aurait été placé sur la liste des transferts. Et selon le Time cité par Foot Africa, l'ancien messin et monégasque pourrait partir en Major League Soccer ici aux États-Unis. D'ailleurs, comme Steven Gerrard de Liverpool qui a signé à Galaxy.
Près de 400 clubs affiliés à 57 fédérations nationales vont recevoir une part des bénéfices enregistrés par la FIFA lors de l'organisation du Mondial 2014 au Brésil.
C'est ce qu'a annoncé ce jeudi l'ECA, l'association européenne des clubs citée par l'AFP. Le montant total de ces versements issus d'un accord signé en 2008 entre la FIFA et l'ECA est de 70 millions de dollars. Il concerne 396 clubs afin de reconnaître leur rôle important dans le succès du tournoi selon l'ECA. La somme versée à chaque club dépend du nombre de joueurs ayant participé au Mondial et de la durée de leur séjour au Brésil l'été dernier. Parmi les 396 clubs, celui auquel a été attribuée la somme la plus importante est le Bayern Munich, dont de nombreux joueurs ont été champions du monde avec l'Allemagne. Le Bayern a touché 1,73 million de dollars. Le Real Madrid est deuxième avec 1,29 million et Chelsea troisième avec 1,25 million de dollars.
Et maintenant la NBA, le championnat de basket nord-américain. Résultat des matchs disputés dans la nuit de jeudi à vendredi. Eh bien, ciel gris à Toronto. Kyle Lowry a inscrit 24 points, mais ce ne fut pas suffisant. Alors que les Raptors de Toronto ont encaissé un 4e revers consécutif en s'inclinant 103 à 95 jeudi face aux Hornets de Charlotte. Ailleurs, dans la NBA, Houston 120 qui faisait face à New York 96. Et puis un match se joue encore, c'est Miami contre Portland et pour le moment le score c'est 73 pour Miami et Portland avec 90. Autre nouvelle qui concerne les États-Unis, eh bien le comité olympique américain choisit Boston pour présenter sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques d'été en 2024. Comme candidat, il y avait Washington, San Francisco et Los Angeles, des concurrents prestigieux certes, mais c'est Boston qui a emporté la mise à l'issue d'une réunion de son comité directeur à Denver.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Merci Anne. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Le Monde aujourd'hui continue avec Jacques Aristide au micro. Retour en République démocratique du Congo, où un climat de peur s'est installé dans la ville de Lubumbashi, une psychose provoquée par de récentes attaques perpétrées par un groupe d'hommes inconnus. Sur place, la correspondance de Narval Mabila.
Depuis l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila, à dissoudre les milices entretenues au Katanga lors de la rencontre avec les notables Katanga à sa ferme privée, à Lubumbashi règne un climat de peur qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la ville, sous l'existence de personnes non autrement identifiées et bien entraînées qui sèment la terreur dans la vie des Louchois, accentuée par les images de l'attentat Charlie Hebdo à Paris. C'est dans ce contexte difficile à expliquer que le directoire national de l'Union de fédéralistes du Congo, situé dans la commune de la Kenya, a été visité le jeudi matin par une jeep de militaires lourdement armés attribués à la garde républicaine qui sûrement était en patrouille dans les alentours, dont la visite inquiète plus d'un membre de l'UNAFEC, comme nous relate Kaïté.
C'était à 6h, 6h15. Nous avons vu une jeep pleine de JR, bien armée jusqu'aux dents. Lance-cloquettes, MAG sont descendus sur notre territoire et comme preuve, vous avez les traces qui se trouvent ici, sont dépinées des Land Cruiser qui portent ces joueurs. Ils sont descendus. Il y a une équipe qui est entrée dans la parcelle là que vous voyez là. Et ils ont répondu qu'il n'y a pas de JINAFEC ici. Ils ont sorti. Ils sont arrivés encore ici au directoire. Ils ont regardé notre 20 personnes et puis ils sont partis. Ils ont tabassé tous ceux qui portaient les t-shirts de Mazembe et de Lupopo. Et même déclarent très bien, nous cherchons la JINAFEC et ceux qui portent les t-shirts de Mazembe et de Lupopo pour les tuer.
Les voisins du directoire de l'INAFEC en plein deuil ont été aussi visités par les militaires, comme nous relate Madame Léonie, membre de la famille éprouvée.
On a vu la pick-up de militaires qui faisait le tour. Bon, il s'est arrêté devant notre parcelle. Nous, on était en deuil, en train de discuter avec la famille dehors. Justement, on a vu 3-4 militaires qui sont entrés dans la parcelle et a posé la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en groupe, croyant qu'on était en réunion. On a dit non, nous sommes en deuil. Depuis quand? C'était depuis avant-hier. Bon, les autres ont fait le tour du parcelle derrière de la maison, sont rentrés et puis nous a dit, bon, ça va, nous sommes partis, mais nous sommes venir chercher les JINAFEC. Nous avons besoin des JINAFEC.
C'est autour de cette situation que Jean-Claude Muyambo Kiasa s'est aussi prononcé en dénonçant le climat des peurs qui règne à Lubumbashi.
Nous voulons l'alternance, qu'on arrête avec les actes d'intimidation, des menaces. Ça ne sert absolument à rien.
Aucune explication de la part des autorités de la ville n'arrive et c'est dans cet environnement que le premier ministre Matata Ponyo est arrivé. Bien aussi l'ambassadeur des États-Unis qui visite le Katanga, Lubumbashi Narval Mabila pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Le Cameroun demande un soutien international et une réponse coordonnée contre Boko Haram. Le président Paul Biya a fait cet appel après les récentes menaces contre Yaoundé, proférées directement par le chef du groupe terroriste nigérian dans une vidéo publiée en ligne. Et maintenant, une commission d'enquête de l'ONU estime que des crimes et crimes contre l'humanité ont été commis en République centrafricaine. Dans un rapport publié hier, la commission a fait état d'un nettoyage ethnique de la population musulmane, mais souligne que l'intervention internationale a évité un génocide. Félix Yepassi Zembrou a recueilli la réaction de l'ancien représentant de la RCA à l'ONU, Charles Armel Douban.
Écoutez, moi j'ai lu ce rapport comme tout le monde. Les experts ont essayé d'enquêter en Centrafrique. C'est vrai qu'ils ne sont pas parvenus à qualifier ce qui s'est passé en Centrafrique de génocide. Moi aussi, je m'inscris dans cette logique. Mais en même temps, quand on dit qu'il y a eu un nettoyage ethnique ostensiblement orienté contre les populations musulmanes, je crois qu'il faut, à partir de cet instant-là, faire la part des choses. Et souvent, dans ce genre d'analyse, on perd de vue ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette situation. Sans pour autant excuser la commission des crimes de part et d'autre, il est bon, justement, d'être objectif, lucide et clair lorsqu'on procède à ces investigations. Je l'ai lu comme tout le monde et je me fais mon opinion. Il n'est pas question aujourd'hui de dire qu'il s'est passé un génocide en Centrafrique. Même si on dit qu'il y a un nettoyage ethnique, je ne pense pas que ce soit ainsi. Il y a eu, effectivement, des crimes de masse en Centrafrique dans les deux camps. Si on doit aller à des rapports qui doivent déboucher sur des jugements ou des poursuites, je crois que dans les deux camps, il faudrait effectivement agir de façon à ce qu'aucun camp ne soit privilégié ou encore excusé.
Oui, justement, ce rapport fait état de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité attribués aux anti-Malaka et ex-Séléka. C'est votre avis, hein?
Moi, à partir du moment où il y a eu la commission des crimes dans tous les camps, il est question aujourd'hui de savoir quelles sont les responsabilités, quels sont les degrés d'implication des uns et des autres, et puis essayer de rendre justice pour que les victimes aient des droits et que justice leur soit rendue.
Charles Armel Douban, ancien représentant de la RCA à l'ONU, était joint à Paris.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Revenons à cet appel du président camerounais Paul Biya contre Boko Haram, le compte-rendu de Lionel Gaïma.
Port Biya hier a reçu le corps diplomatique à Yaoundé. Selon lui, l'accord conclu avec le Nigeria voisin pour la mise en place d'une force régionale pour coordonner la lutte contre Boko Haram n'est pas encore appliqué. Le chef de l'État camerounais estime que la communauté internationale devrait être mobilisée pour combattre le terrorisme qu'il décrit comme une menace à la paix et la stabilité dans tous les pays du monde.
À menace globale, riposte globale. Telle devrait être la réponse de la communauté internationale et notamment de l'Union africaine et de nos organisations régionales. Il faut que l'on sache que la distance qui peut séparer un pays des zones de combat n'est pas une assurance tout risque. Pour ma part, je persiste à croire que la menace que représentent les djihadistes, Boko Haram et autres chebabs, ne pourra être levé que par une mobilisation au niveau international.
Le président Biya a demandé l'aide des Nations Unies, de l'Allemagne, de la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, mais il n'a pas spécifié de quel type d'aide il aura besoin. Dans une vidéo postée lundi dernier sur YouTube, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a menacé directement le Cameroun. Vêtu de noir, un turban sur la tête, Shekau a acclamé, et je cite, « Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria ». Si le président camerounais a déjà été mentionné dans les précédentes vidéos de Shekau, c'est la première fois que Boko Haram adresse ses menaces aussi directes au Cameroun. Pour l'ambassadeur algérien à Yaoundé, Toufis Milad, cette menace est vide de sens.
Le Cameroun ne devrait pas se sentir seul, car le terrorisme, lui, est global, connaissant pas de frontières, et exige ainsi une solidarité et une riposte tout aussi globale. Je voudrais relever ici, au nom de mes pairs du corps diplomatique, que dans ce combat, le Cameroun a agi avec responsabilité et détermination, ne cédant à aucun chantage et n'offrant aux criminels aucune opportunité de réaliser leur dessein.
Le week-end dernier, le groupe nigérien s'est emparé d'une base militaire importante de l'extrême nord-est du Nigeria, sur les rives du lac Tchad, prenant ainsi le contrôle des frontières avec le Tchad, le Niger et le Cameroun. Le président Biya avait donné l'ordre de son armée d'engager des avions de chasse pour protéger une base militaire camerounaise attaquée par les islamistes le 28 décembre. Paul Biya a promis de ne laisser aucun repli aux djihadistes nigérians jusqu'au démantèlement total du groupe islamiste.
Nous restons au Cameroun, où une affaire d'augmentation des prix de la bière et d'autres boissons alcoolisées fait des remous, une polémique qui survient à l'heure où les autorités veulent réduire la consommation de l'alcool.
Les tenanciers des débits de boissons ont profité des fêtes de fin d'année 2014 pour augmenter les prix des boissons alcoolisées. Une initiative mal appréciée par les consommateurs de bière. quelques-uns rencontrés dans les rues de Yaoundé.
Il faut pas augmenter la bière. Il faut baisser la bière.
Quand on augmente déjà la bière, par exemple à 800, je ne peux plus consommer ma petite soumoute. Je ne consomme pas trop. Hein. 650, j'ai ma soumoute. Donc, je ne suis pas fier qu'on augmente la bière.
Au niveau du Cameroun même, si on augmente la bière, ça n'a pas un bon sens. Selon moi, et selon la constitution de beaucoup de consommateurs de bière. Parce que augmenter 100 francs par rapport au pouvoir d'achat des Camerounais, vraiment, c'est un peu trop.
L'affaire fait grand bruit depuis l'adoption par le Parlement de la loi des finances 2015. Le relèvement du droit d'assises devant automatiquement entraîner le réajustement des prix des bières et autres boissons alcoolisées. Alphonse Issi, président du Mouvement national des consommateurs.
Au mois de juin, lorsqu'on préparait la loi de finances, nous avons été consultés. Le gouvernement nous dit, nous allons percevoir de l'argent parce que pour l'effort de guerre qu'on disait, il faut des ressources pour pouvoir soutenir la guerre contre Boko Haram ou je ne sais pas qui. Et nous avons donné notre feu vert en disant que comme la bière ne nous apporte absolument rien, il faudra surtaxer la bière et le tabac au plus fort du taux pour l'effort de guerre. Alors, il semble donc que la loi des finances a intégré une surtaxe, une taxe d'assise sur les boissons, c'est-à-dire les bières.
Avec ces 620 millions de litres de bière consommés en 2013, selon les statistiques des sociétés brassicoles, le Cameroun fait partie des plus grands consommateurs d'alcool. Et du coup, l'augmentation des prix des bières se présente pour certains comme étant la solution au problème. Valérie Tendi, coordonnateur national du syndicat national des exploitants des débits de boissons.
Au quotidien, les débits de boissons sont fréquentés par 3 millions de personnes. Il y a 300 000 bars au Cameroun, environ. Et si par jour, chaque bar devait recevoir 10 clients, c'est un potentiel de 3 millions de personnes. Plus la bière est chère, peu ils entrent dans les bars.
La consommation de l'alcool prend de l'ampleur au Cameroun au fil des ans. Pourtant, des dégâts sont considérables. Alphonse, ici.
Il faudrait mettre fin à cette mauvaise consommation. Parce que les achats des consommateurs conditionnent le développement d'un pays. Nous appelons ça des achats irréfléchis. Parce que la consommation de la bière est responsable de l'hécatombe que nous vivons au Cameroun. 1200 morts par an sur nos routes conditionnées par la consommation de la bière.
Malgré le tollé que crée cette annonce, le prix de la bière connaîtra dans les tout prochains jours une augmentation comme stipulée dans la loi des finances 2015. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Nous terminons en beauté comme d'habitude avec notre bouffée d'air frais musical. Nous retrouvons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Hier, jeudi 8 janvier, les admirateurs du plus grand rocker de l'histoire, Elvis Presley, ont célébré son 80e anniversaire. Près de 40 ans après sa disparition, la Presleymania est toujours aussi forte. On l'écoute ce matin dans Heartbreak Hotel.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom.
Alors Roger, à l'occasion de cette célébration, la maison de vente américaine Julian's à Los Angeles a mis aux enchères deux avions privés du King.
Oui Jacques, le Hound Dog 2 and Lockheed Jetstar et le fameux Convair 880, plus connu hein, sous le nom de Lisa Marie, la fille unique et chérie d'Elvis, sont visibles depuis une trentaine d'années à Graceland, la demeure historique du rocker américain. Elle a été transformée en musée et des dizaines de milliers de touristes du monde entier, fans de l'icône font le voyage à Memphis chaque année, comme s'il s'agissait d'un pèlerinage, Jacques.
King Elvis Presley, The Heartbreak Hotel, pour boucler la semaine. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Jacques. Nos salutations ce matin vont à tous nos auditeurs de Mweneditu en RDC.
Roger Muntou de retour ce soir dans RM Show à 20h TU.
Crowded, hoping you still can find some room for broken-hearted lovers to cry the blues. It's so lonely, baby, but they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
C'est avec la voix d'or du King que nous allons clore ce dernier numéro de la semaine du Monde Aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. John Ellison était responsable de la partie technique. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine. Je vous souhaite une très bonne journée de vendredi et un merveilleux week-end sur la VOA. Take care.